congrès de l'UNIS 2021. L'immobilier au cœur de la société. Au Centre international de Deauville, du 13 au 15 octobre 2021, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Imo.
Bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, 14h51, bientôt 15h, on arrive tout droit vers la fin de ce congrès, ici en direct du centre de congrès de Deauville pour l'UNIS. On est ravis d'être avec vous, nous sommes le 15 octobre 2021. Alors on va parler un peu de politique si vous voulez bien, avec des leaders d'influence dans le métier, pour l'immobilier, en tout cas pour plaider pour une vraie politique du logement engagée. D'ailleurs c'est un peu la baseline d'une tribune qu'on, normalement, on est quand même censé faire tous les mois avec Jean-Marc Torognon, qui s'appelle Passons Logement, Engagement politique. Jean-Marc Torognon qui nous fait l'honneur d'être à notre table aujourd'hui. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour, mais l'honneur est pour moi puisque j'ai été invité par Daniel Dubrac au congrès du Nice et je dois avouer que c'est un réel plaisir et un très bon moment.
Merci d'être avec nous. Jean-Marc Torognon, on ne le présente plus, il est le président national de la FNAIM. D'ailleurs, on voyage, on ne se quitte plus puisqu'on était ensemble mercredi à Metz. Ensuite, on s'est retrouvé hier soir à Paris et on est ensemble à Deauville. Bref, c'est un ménage qui naît. Merci. Voilà. Non, mais c'était pour faire un petit peu d'humour. Voilà. Quelqu'un que j'apprécie aussi tout particulièrement, avec qui on travaille depuis un certain temps sur le sujet des loyers, sur le sujet aussi de la politique du logement et de tout ce que ça implique. Il est le président de Pluriance, président de l'Observatoire Clameur et président également de son groupe, le groupe Daucher. Jean-Michel Camison est avec nous.
Bonjour Sylvain, merci de ton invitation.
Ça va Jean-Michel ?
Très bien, merci.
Moi, je suis ravi d'être avec toi, merci en tout cas. Un petit clin d'œil à Henri Deligne qui doit être pas très loin sur le plateau. Je crois que c'est la première fois que je l'ai sur le plateau, Stéphane Bédélème.
Eh oui.
Stéphane Bédélème, voilà, et on va réparer cette injustice.
C'est ça.
Voilà, Stéphane Bédélème, président délégué de l'UNIS, merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Voilà, on va parler politique. Alors moi, je ne vais pas bouder mon plaisir. J'ai toujours beaucoup de plaisir à passer du temps avec lui. Il est le directeur général du Crédit Agricole Services Immobiliers. David Chouraki est avec nous.
Merci.
Ça va, David ?
Oui, très bien.
Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là, tous les quatre. Alors, malgré le fait, comme le rappelait d'ailleurs hier soir le président Torognon, c'est vrai qu'il manque une femme quand même dans le plateau, pour essayer d'équilibrer un peu les choses.
Hein.
C'est vous qui l'avez dit hier. Sur la table ronde qui était de très bonne qualité d'ailleurs, où on a pu parler de politique du logement.
Oui, mais il faut quand même souligner que l'UNIS a une présidente.
Absolument.
Ce qui, dans le monde de l'organisation patronale immobilière, est rare.
Voilà. Et je crois que c'est une deuxième, puisqu'elle a emboîté le pas à Alexandra François-Cuxac, qui a été la première présidente femme de la Fédération des promoteurs immobiliers. Ouais. Ensuite, Daniel Dubrac, à la tête d'un syndicat. Voilà, Alexandra François-Cuxac qui a effectivement terminé son mandat et qui a été remplacé avec un nouvel élu qui s'appelle Pascal Boulanger. Pas nouvel élu, c'est déjà un an qu'il est aux affaires. Et on lui fait bien sûr un clin d'œil. Messieurs, politique du logement, c'est un peu la dent creuse, on peut le dire. C'est le vrai sujet du jour. Alors c'est intéressant parce qu'on en parlait hier d'ailleurs à l'Assemblée générale de la Chambre FNAIM du Grand Paris, mais on a l'impression d'assister à ce qu'on appelle des contraintes absolues. C'est-à-dire que à la fois on dit il faut loger les Français parce qu'on a une pression démographique dans les villes moyennes, et en même temps on dit zéro artificialisation nette. D'accord ? On dit qu'effectivement il faut pratiquer ce qu'on appelle la mixité sociale pour dégentrifier les centres urbains, et pourtant on voit bien qu'il se passe exactement l'inverse, comme si les communautés par elles-mêmes s'emboîtaient en quelque sorte. On a un logement social qui est quand même en panne, puisque le nombre d'agréments cette année, il est quand même faible par rapport aux objectifs qu'avait fixé, qu'a rappelé d'ailleurs Emmanuel Wargon. Je rappelle 250 000 habilitations, soit un peu plus de 100 000 par an. Et en même temps, effectivement, quand on va dans les régions, eh ben, on a des permis de construire qui sont non seulement en régression, mais vraiment en berne. Ça renvoie les populations vers les centres-villes, vers des villes, qui augmentent mécaniquement, effet ciseau, double peine, les loyers, parfois sur des logements mal rénovés. Déjà tellement heureux de trouver un appartement, c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est un vrai sujet, puisque effectivement, quand j'ai dit mal rénové, forcément, vous avez compris, c'est la rénovation énergétique qui pose débat dans ce pays avec... Alors, je ne vais pas dire un ratage, Jean-Marc Torognon, je ne vais pas dire ça comme ça, mais on va dire une petite erreur avec le DPE lorsqu'il a été lancé.
Je pense qu'on avait quand même eu un petit accident industriel, au fond. Hein, c'est-à-dire que sur les... en particulier donc sur les logements qui ont été construits entre 1948 et 1975, on s'est aperçu que le nombre de passoires, on va les appeler comme ça, même si j'aime pas ce terme, parce que derrière il y a des Français
c'est
qui
vrai,
font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont.
Vous le rappelez, mais c'est très juste.
On va dire des logements très énergivores, ils étaient au double de ce qui était prévu initialement dans le cadre de l'étude d'impact qui avait été initialement donnée aux parlementaires. Donc je ne veux pas faire long, mais le nouvel arrêté est arrivé. La chance que nous avons, qu'a eu ce gouvernement, je vais vous dire la chance qu'il a eu, c'est que les acteurs de terrain que nous sommes ont fait remonter très vite la problématique. Dès la fin août, on a dit attention, ça va pas. Reconnaissons que un correctif est en place. On va juger de ce correctif, bien évidemment. Et ce qu'il faut, bien sûr, c'est que les services du ministère et Emmanuel Wargon restent à l'écoute de nos remontées de terrain.
Plus de 80 000 DPE concernés. Et elle s'est engagée à ce que ce soit gratuit pour le DPE. Hein,
enfin, au-delà de la gratuité, il y a plusieurs choses. D'abord, il y avait 364 000 DPE qui ont été faits en un trimestre. Mmh. Effectivement, les DPE concernés, c'est 80 000. Ce que a dit Emmanuel Wargon, c'est que ces 80 000 DPE, pour ceux qui étaient F et G, seront automatiquement réédités avec la nouvelle formule pour les propriétaires, copropriétaires, enfin les clients concernés, gratuitement, c'est-à-dire que les coûts seront pris en charge par le gouvernement, pour les E et D, à la demande du client. Est évident que nous allons conseiller en tant que professionnels, en toute hypothèse, de demander la réédition de ces DPE, parce que dans son dossier, il faut avoir le bon DPE, parce que l'avenir en dépend pour ces logements.
Clairement. Merci pour cette introduction, justement. On est tous d'accord, le Pluriance, l'UNIS, vous avez aussi, à la FNAIM, beaucoup travaillé sur le principe du statut, vous savez, du bailleur privé qui conférerait un certain nombre d'éléments. On a l'impression, quand on voit les chiffres en location, que, et d'ailleurs la ministre l'a rappelé, elle a dit ici sur ce plateau tout à l'heure, s'il n'y a sans le secteur locatif privé, le logement social ne pourrait soutenir la demande de logement. Et donc je lui ai répondu, donc vous considérez que les bailleurs privés remplissent une mission sociale presque supplétive ou même à votre action? Elle me répond oui. Est-ce que ce n'est pas là justement le sujet, David Chouraki?
On a souvent dit que le parc privé était du logement social de fait. Parce que quand on regarde aujourd'hui dans le privé, on a du logement intermédiaire et que pour loger les Français, on a besoin de ce parc privé. On a un taux de rotation dans le parc privé qui est bien plus important que dans le social. Donc à la fin, la façon de se loger, c'est de faire appel au privé et à l'incitation des investisseurs qui vont développer ce parc. Tout à l'heure, vous disiez politique du logement. Aujourd'hui, moi, je considère qu'on a une politique du logement qui est dysfonctionnelle. Elle est dysfonctionnelle parce que on a des pouvoirs publics qui mettent en place un certain nombre de politiques, d'incitations, et qui, dans le même temps, font des pas de côté ou des pas en arrière. Je pense, par exemple, à ce qui vient de se passer sur le DPE. On sait qu'on a tous un devoir d'aller rénover les logements. Par contre, on va dans le même temps, au pas de charge, enlever un certain nombre de logements du parc. Et au moment où on souhaite loger tout le monde et où il y a de la tension, alors on prend des décisions qui sont contraires aux ambitions. Nous, ce qu'on demande, c'est un moratoire sur la rénovation énergétique et la sortie de la location des logements G à 2025. On souhaite aller jusqu'à 2028. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite être prêt. Pour être prêt, il faut que nous, professionnels, on soit prêt à rénover de façon massive.
C'est possible. En 2028, quand on voit l'ampleur des lettres G, des étiquettes G.
En tout cas, c'est mieux qu'en 2025. Ça nous laisse le temps, clairement, de nous professionnaliser sur la rénovation. Mais c'est aussi des moyens. Et donc, on réclame un plan pluriannuel. On ne veut pas des moyens négociés tous les ans. On pense que c'est 80 milliards d'investissements au minimum. Si on veut une aide à 25% de la rénovation, ça veut dire 25 milliards sur 5 ans, ça veut dire 5 milliards par an. Donc l'effort pluriannuel qu'on appelle de nos voeux, c'est 5 milliards par an. Aujourd'hui, on est sur un petit peu plus de 2 milliards. Et encore, ce n'est pas le budget de l'État qui le porte, hein, c'est le plan de relance. Donc on attend des messages forts sur la capacité qu'aura la chaîne de l'immobilier à rénover et donc à reproduire du logement pour les locataires.
Réaction, Stéphane Benelen.
Le problème, c'est de vouloir mettre de la contrainte là où il n'y en avait pas, là où on n'en a pas besoin. Et on a presque l'impression qu'aujourd'hui, la politique, de façon générale, a pour but d'éliminer du logement. Si je prends l'encadrement des loyers, pour l'avoir vécu personnellement sur l'île, à partir du moment où l'encadrement est arrivé, les gros propriétaires privés ont vendu leurs immeubles, qui ont été achetés à la découpe par des propriétaires occupants.
Donc désinvestissement.
Désinvestissement total.
On parle de désinvestissement.
Mais là, on est dans une pénurie. On est aujourd'hui sur l'île, qui est majoritairement à 80%, c'est du logement étudiant hein, sur l'île. Mmh. Aujourd'hui, au 12 juillet, nous n'avions sur l'île plus aucun logement à louer pour les étudiants, pour la rentrée d'octobre. Donc aujourd'hui, on va sortir en plus 2025-2028.
Comment ils font ces étudiants? Où est-ce qu'ils vont alors? Est-ce qu'ils renoncent par exemple?
Ils sont obligés de s'éloigner de plus en plus et d'aller dans des quartiers où ils ne voudraient pas aller.
Ouais, je comprends. Voilà. Ils s'éloignent, et il en va de même pour l'emploi, je suppose.
Ah oui.
On s'éloigne de l'emploi parce qu'effectivement, on n'a plus les moyens de se loger ou il y a carrément plus de produits.
Il n'y a pas vraiment de problème d'emploi dans le sens où les familles, on va dire les employés, sont de toute façon en dehors de l'île. Il y a très peu. Il y a une volonté de Martine Aubry de mettre toutes les familles avec 4 enfants dans les maisons à l'intérieur de l'île. Ça n'existe plus depuis des années. Vu le nombre d'étudiants, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, on va nous sortir avec les DPE tout un tas de logements. On va calculer un pourcentage qui est astronomique, tu pourras le confirmer, Jean-Michel. On est sur un parc qui va partir parce qu'aujourd'hui, on veut inciter les propriétaires à faire des travaux. Ils n'ont pas tous les moyens et même s'ils ont les moyens, ils n'ont pas le temps. Je disais tout à l'heure en conférence que la rénovation énergétique, c'est du temps en copropriété. C'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, le temps de prendre une décision, de faire acter les travaux avec des montants qui peuvent aller à 20 000, 30 000 euros par copropriétaire. Ça se répare tout ça. Donc aujourd'hui, nous dire dans 3 ans, dans 4 ans, il faut que ton immeuble soit totalement rénové et ne soit plus une passoire, comme disait Jean-Marc. Non, j'y crois pas.
C'est clair.
Voilà. Donc, à part reporter ou annuler, mais bon, avec les enjeux climat aujourd'hui, c'est pas possible. Mais à part reporter, je vois pas de solution. Techniquement, on saura pas faire.
Jean-Michel Camizot.
Tout à fait. Je voudrais rappeler un chiffre qui me semble très important, parce que c'est vrai qu'on parle tous en termes de rénovation énergétique d'un potentiel de sortie de parc qui serait de l'ordre de 1 600 000 logements. C'est énorme.
C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça,
c'était à peu près. C'est énorme.
C'est ce chiffre-là, hein, Jean-Marc Torrion, qu'on avait identifié. Hein.
C'est ce chiffre-là si on ne fait rien en termes de travaux, bien sûr. Hein, c'est le potentiel maximum.
Oui, d'accord. Okay.
Mais on laisse de côté, à mon avis,
parle de locatif, hein, ça ne concerne pas les propriétaires occupants.
Uniquement sur du locatif. Mais on laisse de côté un problème qui me semble extrêmement important et qui est cette temporalité des décisions en Assemblée Générale en copropriété. Et puis on parle souvent de 2025. Mais là, on se trompe, c'est pas 2025, c'est 2023. 2025, c'est ce qui est inscrit dans la loi climat et résilience. D'accord ? Donc on a 2025, 2028, 2034. F, G, E. Sauf que, à côté de ça, en dehors de la loi, nous avons un arrêté, un décret, qui s'appelle le décret Pompili, qui requalifie la décence d'un bien. Et en requalifiant cette décence d'un bien, c'est au-dessus de 450 kW de consommation annuelle. Et donc on est effectivement dans des étiquettes G, hein, c'est vraiment des passoires. Ce parc-là, que nous, Pluriance, on estime à 150 000, que le gouvernement a estimé à 90 000, c'était avant la petite erreur sur le DPE, parce qu'évidemment, on était à 90 000 avec un DPE ancien, on est à 150 000 avec un nouveau DPE. Ces 150 000 logements vont sortir du parc locatif au 1er janvier 2023. C'est demain.
Et demain.
On n'aura jamais le temps de protéger ces 150 000 logements. Donc ça, c'est le début de la catastrophe. Et ensuite, on va les enquiller 2025, 2028, 2034. Donc il y a urgence. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à percevoir dans le dialogue avec le gouvernement. Mais c'est les moyens d'urgence.
Si je vois, quand je vous écoute, là, je me dis, mais ça va être d'abord vraiment impossible. Question, qu'est-ce qu'on fera des locataires? Alors, je vous ai vu réagir, Jean-Marc Torrion, vous voulez?
Oui, parce que je voudrais rappeler un point pour compléter les propos de Jean-Michel. C'est que dans la loi climat et résilience, telle qu'elle était proposée initialement au Parlement, l'étude d'impact a été faite pour prendre les logements F et G et les mettre en E. Là, les logements dont parle Jean-Michel, il ne s'agit pas de les mettre en E, il s'agit de les mettre en D. Parce que comme l'indécence programmée des logements concerne les E en 2034, même si on peut estimer qu'on peut faire les choses par geste, il n'en demeure pas moins que, à l'issue de la loi climat et résilience, les objectifs qui ont été fixés sur ce parc n'étaient pas ceux qui étaient initialement prévus dans l'étude d'impact. Et c'est pour ça qu'au fond, je pense que les parlementaires, et là, il y en a, il y a une commission conclusive, hein, donc les parlementaires n'ont pas mesuré en votant l'impact réel. Et c'est là où je trouve que c'est très dangereux pour le parc privé locatif.
Une réaction sur ce que vient de dire Jean-Marc Torlion, David Chouraki.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que...
Parce que là, on a des chiffres hyper précis, quand même.
Oui, on est précis parce qu'on a, nous, une bonne connaissance, effectivement, du parc, et on voit bien qu'on court à la catastrophe. On va dans le mur en klaxonnant, parce qu'on se félicite de faire un certain nombre de gestes sur la rénovation énergétique, et on ne se rend pas compte qu'effectivement, il va nous manquer des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de logements. Quand je disais que tout à l'heure on envoie des signaux contradictoires, on envoie des signaux contradictoires par exemple sur l'encadrement des loyers. Nous, ce qu'on prône, c'est que l'investisseur, il a une fonction économique dans le logement aujourd'hui. Il y a une fonction économique du bailleur et on souhaiterait que ce soit reconnu, que l'action de l'investisseur soit bien au service du logement. Et pour ça, on aimerait qu'il puisse y avoir un amortissement universel pour les biens loués. Et même que l'État puisse trouver, au travers de cet amortissement, le moyen d'aller chercher même du logement louable. Et on l'a dit tout à l'heure, on pourrait totalement moduler l'amortissement en fonction, par exemple, des niveaux de loyer ou en fonction, par exemple, du niveau d'efficience énergétique. Donc derrière le fait de donner des grands coups de bâton sur la tête des uns et des autres, de donner des oukases dont on ne mesure pas forcément très bien les conséquences pratiques, on préférerait qu'il y ait des incitations économiques, des stimuli économiques qui soient donnés. Et on a fait des propositions extrêmement concrètes, extrêmement directionnelles, qui, nous le pensons, seraient vertueuses.
Exemple, pour exemple, illustrer le propos.
Exemple, être capable de dire à un investisseur que quand il investit dans un logement ancien, qu'il fait un effort pour moduler le loyer, alors il aura un amortissement fiscal. Voilà, c'est très concret.
Donc c'est par la fiscalité ou le fléchage d'une fiscalité qu'on va pouvoir raisonner et en fait engager cette politique. Ça vous semble pertinent, ça ?
Oui, il faut envoyer des messages positifs, économiques positifs aux investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs voudraient pouvoir jouer un rôle fort. Et aujourd'hui, certains se désengagent, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, certains se désengagent face à un magma d'injonctions contradictoires. Quand on est investisseur, qu'on nous parle de logements qui ne pourront plus être loués, de logements sur lesquels on va geler les loyers, de niveaux d'investissement extrêmement forts de rénovation énergétique, de décisions en assemblée générale un petit peu compliquées à prendre, dont on ne sait jamais finalement si on va être otage ou pas des autres copropriétaires.
De permis de louer.
De permis de louer. Je vais vous dire, vous êtes investisseur, vous dites, je vais passer mon chemin. D'accord. Or, on a besoin de cette épargne.
C'est ce que disait Stéphane tout à l'heure.
On a besoin de cet investissement.
On assiste à des désinvestissements.
Voilà. Et je vais plus loin. Alors là, c'est peut-être au-delà des incitations ou des désincitations économiques. C'est la façon dont on présente l'investisseur et le logement aujourd'hui. C'est-à-dire que l'investisseur rentier, qui est presque un mauvais citoyen, parce qu'il n'investit pas au bon endroit. D'accord. Je pense que cette mythologie autour du logement en France et de l'investisseur rentier mauvais citoyen, je pense que, vous voyez, on a mis une minute à dire tout ce qui pouvait décourager aujourd'hui l'investisseur de faire une opération. Donc après, on se plaint qu'il n'y ait pas assez de logements et on va chercher à nouveau à contraindre les acteurs pour essayer de louer et de baisser les loyers. Mais les loyers, ils vont pouvoir baisser. C'est pas ça qui créera des logements à louer.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit en fait les limites de l'exercice par rapport en fait à la politique d'aménagement du territoire ou à la politique, comment vous appelez ça, politique de peuplement hier, c'est bien ça ?
En fait, ce que j'ai fait remarquer, c'est que à l'issue de la loi Climat et Résilience, le zéro artificialisation net imposé par l'État, c'est une reprise en main de ce qui avait été accordé dans le cadre de la décentralisation, où au fond les politiques d'urbanisme étaient quand même au niveau local. Et ça préfigure, à mon sens, demain, une reprise en main d'une politique d'urbanisme par l'État, Et peut-être que les maires qui aujourd'hui ne veulent plus bâtir se verront retirer ce droit-là et ce sera recentré sur l'État. L'autre chose que j'ai dit, c'est qu'à l'issue d'une petite tournée que j'ai faite avec différents élus locaux, je m'aperçois que beaucoup d'élus locaux arrêtent le logement social. Le tout social a marqué ses limites en matière d'attractivité et, j'allais dire, d'équilibre des populations. Et on voit beaucoup de maires aujourd'hui qui sollicitent les promoteurs pour faire revenir la classe moyenne dans leur centre-ville, pour faire revenir des cadres dans la ville. Et moi, je dis, je pense qu'on a trop jugé la réussite d'une politique du logement à l'aune de la production de logements sociaux et à l'aune de la production de logements neufs. Et quand je vois que dans la cadre de la production de logements neufs, on a une part qui est réservée au social et une part qui est réservée à la vente en bloc, mais qu'est-ce qui reste finalement pour le citoyen? Qu'est-ce qui reste? Et là, c'est là où, attention, je crois qu'il ne faut pas opposer, comme le disait Jean-Michel dans une table ronde précédente, logement social et logement privé. La complémentarité est de mise et cette complémentarité, aujourd'hui, elle doit être recherchée sur le secteur privé.
Réaction, Jean-Michel Camison.
Ce que vient de dire Jean-Marc, on peut le concrétiser au travers de ce qu'on appelle l'intermédiaire. Vous avez donc le logement social sur votre droite, le logement privé sur votre gauche. Au milieu, vous avez l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est le Pinel pour les privés, mais c'est aujourd'hui dédié au social. Et la question que je pose, je dis pourquoi cet intermédiaire qui va répondre à des besoins importants? Le plafonnement des revenus pour les locataires qui vont y habiter, engagement du propriétaire sur un niveau de loyer abordable. Pourquoi on n'ouvre pas ces secteurs-là à l'ensemble des investisseurs? Je suis 100% d'accord avec Jean-Marc sur le fait de dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas raisonner par chapelle. On doit raisonner logement. Il y a un chiffre qui est toujours très marquant. 60% des Français sont éligibles à un logement social. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas loger dans le social les gens qui pourraient y être. Donc il faut ouvrir, et pour ouvrir, il faut donner des incitations à différents niveaux, ouvrir l'intermédiaire aux bailleurs privés, donner la possibilité à des bailleurs privés dans l'ancien, et le ministre de Normandie avait ouvert la voie avec le 2 Normandie dans l'ancien, sauf qu'il l'a réservé aux acquéreurs qui font des travaux. Moi je dis le 2 Normandie dans l'ancien, il faut l'ouvrir à tous les propriétaires, de manière à ce qu'ils aient les moyens de faire des travaux et de pouvoir remettre en location leurs biens. Donc le logement, ça doit se voir de manière macroéconomique, et c'est élément par élément, qu'on va trouver les bonnes incitations fiscales pour les uns ou la possibilité de construire tout simplement pour les autres.
Ça a le mérite d'être très clair. Stéphane Bédélème.
Je pense qu'on est parti de bailleurs rentiers dans l'ancien temps. Et aujourd'hui, j'en n'en croise plus. Je croise des acteurs économiques qui sont là, qui ont une vraie mission économique d'investir pour fournir du logement en France. Une vision totalement différente. Avant, on achetait, on s'endettait un peu, on avait une inflation qui montait bien, ça remboursait les loyers, on se faisait un petit patrimoine. Effectivement, on avait du revenu.
On vous qualifiait à l'époque, rappelez-vous, on disait c'est de l'enrichissement sans cause.
Voilà.
Il y a longtemps que c'est plus le cas.
Aujourd'hui, on a presque envie de dire que pour être acteur économique d'investissement immobilier, il faut avoir un certain courage. Ah oui. Rapport à tout ce qu'on a en face, ça ne rapporte plus grand-chose. Bon, à part une valorisation de capital, mais...
Qui est de moins en moins vrai, Stéphane, qui est de moins en moins vrai.
Clairement. On voit même, par exemple, les syndics de copropriété, les entreprises de syndics de copropriété, qu'on voit aujourd'hui la structure du compte d'exploitation des syndics de copropriété, bon, il faudra un jour qu'on m'explique comment ils font pour gagner de l'argent.
Hein. Je vous confirme,
on ne fait que rogner vos marges. Et d'ailleurs, si on devait faire la courbe sur les 10 dernières années, rien n'a cessé en termes de réglementation. Et je ne pense pas que ce soit Jean-Marc Tourignon qui me contrariera pour rogner vos marges d'exploitation, justement là-dessus, avec une exigence de la clientèle qui est quand même sans commune mesure. Vous êtes d'accord là-dessus?
Si je reprends, il y a une dizaine d'années, un des plus grands groupes, on va dire, au nord de Paris, faisait 1% de marge positive quand même, mais 1% de marge sur la copro. Après, ça permet de faire de la location, ça permet de faire de la transaction.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, ils sont en marge négative. Parce qu'il a fallu investir,
c'est très clair.
Au niveau informatique, c'est de plus en plus important.
On salue Daniel Dubrac, On salue Daniel Dubrac qui nous fait un petit coup. Merci. Voilà, les joies du direct. Merci Daniel, merci beaucoup. Oui Stéphane, vous voulez dire. Mais effectivement, c'est agent économique, mais aussi agent impliqué dans la société, dans la citoyenneté, dans l'engagement.
Je ne parlais pas de l'agent immobilier, de l'agent, le propriétaire investisseur. Hein.
Et le propriétaire investisseur, finalement, aujourd'hui, il se rend compte qu'en réalité, c'est le premier frappé par une anomalie qui est, à mon avis, peut-être, comme il le disait d'ailleurs David, dysfonctionnelle. que j'appellerais moi une inflation normative. Parce qu'en fait, ça s'empile. C'est kafkaïen à un moment donné. Parce qu'en fait, dans l'empilement de ces normes, il y a des objets qui sont contradictoires. Parce qu'on vous demande hein, de loger les Français quand même, hein, David.
Oui, ouais, aujourd'hui, on est aux côtés de nos clients, locataires, propriétaires. Et j'insiste sur le rôle que nos professions ont pour fluidifier et organiser cette politique du logement. Voilà. On est nous des acteurs importants. On l'a dit sur la rénovation énergétique. On nous attend sur la rénovation énergétique. Aujourd'hui, il y a 85% des copropriétés qui sont gérées, hein, c'est-à-dire qui ont un syndic professionnel. Ça veut dire qu'il va falloir, dans 85% des logements, que les syndics puissent accompagner la politique du gouvernement. Mais c'est vrai aussi des bailleurs que l'on accompagne, à la fois dans la rénovation d'un logement, dans la capacité à louer correctement, à commercialiser correctement. Et je pense que c'est ce qu'on a voulu rappeler ce matin dans la table ronde, c'est qu'on a un rôle économique important et on a le sentiment de ne pas être respecté. Voilà. Et que cette politique d'injonction contradictoire et de signaux contradictoires qui sont donnés, nous, en tant que professionnels, on le ressent aussi dans la façon de travailler avec l'État d'une façon générale. C'est-à-dire qu'il nous écoute, il nous fait confiance. Il faut souligner, et Jean-Marc a dit, au-delà de l'excellent travail qui est fait par nos syndicats, pour se faire écouter, il y a eu une oreille attentive, par exemple, sur le DPE, hein, pour écouter les erreurs qu'on remontait. Mais aussi, il faut le souligner, pendant la crise du Covid, où on a été écouté et soutenu. Il faut savoir le dire. Mais néanmoins, on a le sentiment qu'on est toujours une profession au nid. On aime bien nous taper dessus. Et à un moment donné, il faut savoir si on veut être les partenaires d'une politique du logement, alors il faut nous en donner à la fois les moyens et l'image.
Je dois rendre l'antenne, mais je voudrais qu'on donne un signal à l'aube des présidentielles et d'une élection qui est un peu particulière cette année. Hein. Un peu particulière. D'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, on a eu l'un des candidats à la présidentielle qui nous a confirmé la venue sur notre plateau. On va d'ailleurs aller à Roubaix. C'est très symbolique d'aller à Roubaix. On va faire une émission et cette émission va s'appeler « Et si tout le monde était bien logé ?» Oui, on va faire un truc un peu sympa. Voilà, politique du logement, mai 2022, élection présidentielle. Jean-Marc Torollion, président d'AFNAIM, vous attendez quoi du nouveau président de la République ?
Eh bien, écoutez, clairement. Très clairement, j'attends la mise en place du grand ministère de l'habitation qui rassemble l'intégralité des compétences logement et que ce ministre ou cette ministre ait le rang de ministre d'État et soit la numéro 2 ou la numéro 3 de ce gouvernement. Ça sera déjà... Après, on peut décliner. Mais ça sera le vrai signal. Et on l'a bien vu au fond, Emmanuel Wargon, que j'ai trouvé humble aussi dans ses propos. Même si elle n'a pas dit grand-chose sur le logement privé en réalité. Mais elle nous a quand même fait comprendre une chose. C'est qu'elle n'était que ministre déléguée.
C'est ce qu'elle nous a dit tout
à l'heure. Et qu'elle se référait heureusement peut-être à Jean Castex, qui commençait peut-être lui, en tant que Premier ministre, à se dire « Ma ministre du logement, là, il faut que je l'écoute, il y a peut-être un sujet logement pour les présidentielles. » Bien, je crois que ça transparaît au fond. Et voilà, le signal, le premier signal, ce serait que les candidats nous disent Le logement, c'est important en France et j'aurai un ministre d'État sur ce sujet-là qui va rassembler toutes les compétences.
Alors là, on peut vraiment applaudir parce que c'est exactement ce qu'il faut pour s'infléchir au social. Hein. On ne peut pas vivre décemment quand on sait que 5 millions de Français, ou peut-être un peu moins, sont mal logés dans ce pays. Voilà, tout simplement. Jean-Michel Camizon.
Je ne peux pas dire grand-chose de plus que ce que vient de dire Jean-Marc, puisque c'était une idée qu'on a défendue
oui,
ensemble.
Oui, oui.
un grand
Je
ministre...
reprends l'excellente proposition de l'UNIS.
Un grand ministère, bien sûr, parce qu'on voit bien que les sujets qu'on aborde sont multiples. Ils ne dépendent pas que d'un seul ministère, ils ne dépendent pas que d'une seule enveloppe budgétaire. On sait que dans nos métiers, on a besoin de la chancellerie, on a besoin de Bercy, on a besoin du logement. Et donc la création d'un grand ministère pour mener cette campagne de rénovation, avec le temps nécessaire à convaincre et à faire passer, plus évidemment des aides qui vont un petit peu au-delà de ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est ça l'avenir pour le logement.
Merci Jean-Michel Camizon. Stéphane Benelem.
Alors effectivement, le ministère, le grand ministère, oui. Mais au-delà de ça, et dans les enjeux de rénovation énergétique, qui depuis le Grenelle nous tenaille, c'est vraiment une politique du logement et d'aide qui soit fiable dans le temps et qui ne soit pas limitée à dans un an, dans deux ans. Quand on nous annonce qu'il y a une subvention européenne qui est arrivée, on est le 28 juillet, il faut qu'elle soit dépensée avant le 31 décembre. Non, en copro, on ne sait pas faire. Donc, voilà, une politique de long terme en matière d'aide dans la rénovation. Et là, on pourra
et ce grand ministère, justement, qui est... Parce que ce qu'on a entendu quand même, grand ministère, mais surtout ministère d'État. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on a entendu, c'est que, comme l'intérieur, par exemple, avoir un vrai pouvoir, une vraie pesée, entre guillemets, budgétaire, avec Bercy, quand même. Parce que c'est ça que ça veut dire aussi.
Bien sûr.
Un pouvoir qui a des délégations qui permettront d'infléchir les politiques technocratiques de ceux qui font la fiscalité à Bercy. Parce que c'est bien ça, le sens du terme. Elle le dit, d'ailleurs, Emmanuel Barbeau. Elle est soumise à des impératifs budgétaires et à un marquage là-dessus. C'est vous qui avez le mot de la conclusion, David Chouraqui, justement, présidentiel. L'homme des punchlines, on va dire. Qu'est-ce que vous souhaitez, vraiment? Alors, vous souscrivez, je sais, à tout ce qui a été dit. Mais de votre point de vue.
Moi, je veux une politique du logement volontariste, c'est-à-dire qui met véritablement les moyens. Je la veux pluriannuelle, et donc ça revient à ce qui a été dit sur le fait d'avoir des messages clairs, convergents, qui stabilisent la politique dans le temps et qui donnent confiance aux investisseurs pour accompagner la production de logements et pour loger correctement les Français.
Confiance et loger correctement les Français. Ça, c'est des mots sur lesquels on aimerait bien conclure, bien évidemment. Merci à vous, Jean-Marc Torollion, président de la FNAIM, qu'on vous retrouve bientôt sur nos antennes et on se revoit régulièrement. Merci, donc FNAIM, qui défend les intérêts de la profession. Merci à vous, Jean-Michel Camizon, président de Pluriance, de l'Observatoire Clameur et du groupe Dauché. Donc, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, hein, Jean-Michel Camizon. Merci aussi. Stéphane Benalem, président délégué de l'UNIS. Voilà, vous changez rien. On avait fait une visio, je me rappelle, qui était très intéressante et très instructive. Je vous invite à l'émission avec Xavier Bertrand. Ça va avoir lieu à Roubaix, à la Condition publique, que vous connaissez bien, en présence de Guillaume Delbarre aussi, justement, pour discuter de ce sujet. Et j'aimerais bien avoir un truc. On viendra même faire un reportage pour avoir votre point de vue sur la question. Un grand merci aussi à vous, David Chouraqui, directeur général de Crédit Agricole, service immobilier. Moi, je vous dis une chose, David, changez rien. Voilà, tout simplement. Merci, on continue nos programmes. C'est bientôt la fin de ce congrès de l'UNIS.
Le congrès de l'UNIS 2021. L'immobilier au cœur de la société. Au Centre international de Deauville, du 13 au 15 octobre 2021, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Immo.